Cours de philosophie du vivant par le Père Philippe à Saint-Jaudard, le 10 octobre 89.
Je ne fais pas cette année-ci, puisque ce n'est pas le début du cours de la philosophie du vivant. On a commencé l'année dernière. Une petite topic, faites-la pour vous. C'est toujours important, une topic historique. Quels sont ceux qui ont essayé d'entrer dans ce problème de la philosophie du vivant? Vous allez les compter sur les doigts. Ils ne sont pas très nombreux. C'est très curieux. Hein? Saint Thomas a commenté le De Anima, le Peripsychès d'Aristote. Alors, ceux qui lisent le latin de Saint Thomas, c'est quelque chose qu'on doit lire. Il n'y a pas de traduction. C'est à faire. Alors, très très vite, ça a été les livres de scolastique sur la psychologie rationnelle, comme on l'a appelé. Et c'est pas du tout la psychologie rationnelle, ça. C'est la philosophie du vivant. Alors vous voyez qui serait intéressant, et on devrait le faire ici pour vous. Si le père Gabriel a le temps, il le fera pour vous. Parce que c'est important de voir un peu les tournants de ce problème de la philosophie du vivant. Aristote est le premier qui donne un traité de philosophie du vivant. Il le donne à l'intérieur de sa philosophie de la nature. Vous verrez ça en voyant Aristote. Pourquoi le donne-t-il à l'intérieur de sa philosophie de la nature? Est-ce que c'est tout à fait juste? C'est un très gros problème. Est-ce que là on doit dépasser Aristote pour faire de la philosophie du vivant quelque chose de propre comme méthode, ce que je croirais assez volontiers. Donc là, il y a un dépassement par rapport à ce qu'Aristote nous dit. Vous allez tout de suite comprendre. Le traité du vivant, de fait, avec la scolastique, s'est orienté vers le point de vue de la psychologie. C'est très vrai qu'aujourd'hui, le traité de la philosophie du vivant le De Anima, ouais, c'est très curieux que la philosophie du vivant s'appelle De Anima. On verra. Traité de l'âme. Alors, on est en présence des sciences biologiques, en présence des sciences psychologiques. C'est la philosophie du vivant, traitée scientifiquement par la biologie, traitée psychologiquement, le vivant qui est l'homme, par la psychologie. Et la philosophie n'est ni la science biologique, ni la psychologie. Alors on doit ramer entre les deux. Parce que le vivant, comme tel, c'est l'homme. Et on va voir pourquoi. C'est l'homme vivant. C'est comme ça qu'on devrait traiter. Traiter de l'homme vivant. Et non pas du vivant. Parce que du vivant, vous pourriez croire que c'est la psychologie de l'araignée. Vous pourriez faire un traité de philosophie du vivant, de l'araignée, ou de la vache, ou de l'hippopotame. l'animal que vous aimez le mieux? Le chien, le cheval, hein? Et ainsi de suite. Non, le vivant, c'est l'homme. Et alors, Aristote l'a bien saisi dans le De Anima. Mais il reste le vivant, comparativement à la philosophie de la nature. Or, de fait, à cause du progrès des sciences modernes et des sciences humaines, on doit aujourd'hui préciser très nettement que notre philosophie réaliste regarde l'homme. Je vous l'ai dit. Mais en regardant de l'homme, elle regarde le vivant. En regardant l'homme, elle regarde l'être. Et c'est l'homme qui m'intéresse au point de vue philosophique. Vous comprenez bien. Et ça, je dois préciser beaucoup plus que ne le fait Aristote. Je comprends très bien la position d'Aristote face à Platon. C'est merveilleux ce qu'il a dit. Alors, est-ce qu'aujourd'hui nous ne devons pas être beaucoup plus attentifs aux problèmes philosophiques par rapport à l'homme? Et alors, ça se pose très fort avec la philosophie du vivant. Ça, c'est une petite remarque nécessaire pour que nous puisions dans Aristote ce qu'on doit puiser et qu'en même temps, il y ait une certaine liberté de penser. On ne va pas répéter ce que dit Aristote. On va chercher à trouver ce que représente cette philosophie du vivant au-delà de la biologie, au-delà de la psychologie. Première remarque très importante. Pourquoi philosophie de l'âme, des animaux? Parce que, de fait, ce qui va intéresser en premier lieu le philosophe du vivant, c'est l'âme. Voyez, on dit philosophie de la nature. On ne dit pas philosophie de la forme. Forme. On dit De Anima. Pourquoi? Parce que, de fait, la saisie de l'âme fait comprendre ce qu'est le vivant. Tandis que la saisie de la nature forme ne fait pas comprendre entièrement le monde physique. Immédiatement proche de la nature que du vivant. Et c'est pour cela que il me semble que la philosophie du vivant est une philosophie qui ne peut s'élaborer qu'après philosophie de la nature et philosophie première. Et la philosophie du vivant est d'une certaine manière, comprenons bien, toujours entre les deux. Parce que la vie fait la synthèse de l'être et du devenir. Et le tichène hegelien, hein, le tichène hegelien, il ne faut jamais l'oublier, le devenir. Vivant, synthèse du devenir et de l'être. Il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est un schème, ça. Il faut tout de suite le déchirer après. Mais c'est quelque chose. C'est que le vivant, dans l'homme, c'est celui qui existe de la manière la plus parfaite. Vivre, c'est être. Aristote dit ça. Pour moi, vivre, c'est exister. Et pour vous aussi. Hein. Vivre, c'est exister. C'est pour ça que quand vous dormez, vous existez moins. Hein, vous êtes au frigo. Vous êtes en hiver. Vous êtes marmotte.
Dieu, c'est le silence.
C'est beau de voir un crocodile. Faut pas être trop proche. Mais c'est beau. Quand il se dort au soleil. Et ainsi de suite, hein. Toute la variété des animaux. Le vivant. Qu'est-ce que c'est que le vivant? C'est l'homme. Quand je regarde les animaux, je ne les vois que de l'extérieur. Or, la vie ne peut se saisir que de l'intérieur. Quand je regarde mes frères, je dis, ils vivent. Parce que moi-même, j'ai l'expérience de ce que c'est. Je projette sur eux ce que moi-même, je sens en moi. Mais je ne sais pas exactement ce qu'ils vivent. Parfaitement, je ne sais pas. Je suis donc dans une situation privilégiée pour saisir ce que c'est que parler, ce que c'est que regarder, ce que c'est que toucher, ce que c'est que manger, ce que c'est que dormir, m'endormir. Faut pas trop y penser, hein. Parce que si vous y pensez trop, vous vous endormirez jamais. Mais c'est quand même très curieux. Vous voyez, la crainte du gosse quand il va pour dormir. Il a peur. Et c'est pour ça que Rousseau disait qu'il fallait laisser s'endormir d'eux-mêmes, pas les conduire trop vite. Et je connais d'une part des amis au moment de Rousseau dans les familles qui étaient sous l'influence de Rousseau. On disait jamais à un gosse, va dormir, c'est l'heure. On les laissait rouler sous la table. Laisser la nature. C'est vrai que c'est terrible de devoir s'endormir. Ne plus être au gouvernail. Et qu'est-ce qu'il va y avoir pendant la nuit? Il y aura des cauchemars. Qui vont venir. Il y aura des luttes. L'appréhension. S'abandonner. Vous voyez, vous êtes, on est unique. C'est ça qui est très curieux. Alors, on comprend très bien la méthode introspective. Mendebiran. Mendebiran prend la méthode introspective. On a un privilège unique d'assister à nos opérations vitales. Mais alors, on tombe dans la subjectivité. Il n'y a plus de philosophie. Comment pouvons-nous parler d'une philosophie du vivant quand nous savons que ce qu'il y a de propre à la vie, je le saisis de l'intérieur. D'une façon subjective, purement subjective. Je vous regarde, je ne sais pas si quand vous regardez, vous voyez la même chose que moi. Si vos émotions sont les mêmes, si vos réactions psychologiques sont les mêmes, je ne sais pas. Mes passions, j'arrive à les connaître. Mais les vôtres. Et instinctivement, quand le père m'a dit, ah, vous êtes. Là, vous... Mais mon père, vous ne me connaissez pas. Vous voyez, on lève les ponts-levis. Il a dit, mais vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas ce que je suis. Un Asiatique dit à un Européen, ah, vous ne savez pas ce que c'est que l'Asiatique. Ah, vous ne savez pas. Et un Européen. C'est la même chose pour l'Africain. Il y a des réactions différentes, du point de vue culture. Et pourtant, la philosophie du vivant est au-delà de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique. Au-delà. qu'il aime. C'est ça qu'il faut sentir très fort. C'est pour ça que je dis, il y a une méthode philosophique propre au vivant. Il y a une attitude réflexive. Et ce n'est pas l'introspection. Pourquoi ? Il y a une attitude réflexive, c'est sûr. J'assiste à ce que représentent mes opérations vitales. Et je sais que c'est cela qui me permet de saisir de l'intérieur le vivant. Le vivant, on doit le saisir de l'intérieur. Et on doit le saisir de façon objective et non pas subjective. Saisir de l'intérieur le vivant, c'est se mettre dans une attitude subjective. Il ne faut pas avoir peur de la subjectivité. Mais il faut la dépasser pour saisir l'objectivité dans la subjectivité. Qu'est-ce qui va permettre cela ? Le jugement d'existence. Vous voyez, on rejoint l'être. Quand je vis, je suis. J'existe. Quand je suis passionné, j'existe. Et donc, je saisis et j'essaie de saisir à travers cette subjectivité quelque chose d'objectif qui va se rattacher à un principe. L'âme. La philosophie du vivant n'est philosophie du vivant que dans la mesure où j'arrive à saisir au-delà de la description un principe. L'âme. C'est pour ça qu'on dit philosophie de l'âme. Pour tout de suite montrer qu'on n'est pas dans la subjectivité. Donc vous voyez, je le souligne là parce que c'est très important. Il faut bien réfléchir ça. Vous voyez la différence avec la science biologique. C'est qu'il n'y a aucune introspection, aucune attitude réflexive. Vous analysez les réactions. Chimique. À l'égard de quelque chose qui ne vit plus. L'analyse du sang, qui est si importante aujourd'hui. L'analyse du sang. Comment faites-vous l'analyse du sang ? Ce n'est plus du sang vivant. Je sais très bien qu'il faut garder le sang le mieux possible, le plus possible, dans un contact qui fait que il est comme s'il jaillissait de vos artères, de vos veines. C'est pas vrai. Il est sorti de vous. Il ne vit plus. Et vous essayez de le maintenir, mais il y a quand même un abîme entre le sang qui circule en moi et la goutte de sang qui est versée. C'est plus du tout la même chose. C'est mon sang, mais c'est plus le sang qui me fait vivre. Alors évidemment, je peux le boire, alors à ce moment-là, il redevient mon sang vivant. Mais le sang est vivant. Et vous êtes obligé de le séparer de sa vie pour le connaître. Ah, ça fait un gros coup pour la science biologique. Prétendez étudier le vivant, vous étudiez le mort. Et Aristote dit, entre le cadavre et le vivant, c'est équivoque. Donc entre le sang qu'on analyse et le sang qui est en moi, c'est équivoque. Vous analysez la matière du sang, mais pas ce qui est caractéristique du sang lié au vivant, et ainsi de suite. C'est extraordinaire, ça. Voyez, alors, le philosophe sait ça. Il est conscient de cela. Et il accepte d'être beaucoup plus pauvre du côté de l'analyse de la causalité matérielle pour mettre toute son attention à saisir la qui s'intéresse à la source du vivant, à l'âme. Ce qui m'intéresse, c'est saisir l'âme. Tandis que le biologiste ne saisira jamais l'âme. Vous savez bien, cette réaction très jolie du reste de Jean Bernard. Il l'a dit, et j'ai entendu, ça m'a beaucoup frappé. Pendant les vacances, il retourne dans son petit village. Le maître d'études de ce petit village, le professeur du village, demande à Jean Bernard, grand savant, faites des cours à mes petits-enfants. Alors, ça a dû être très très joli. Maintenant, il le fait habituellement. Alors, il leur dit, très gentiment, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre un petit mot, de l'écrire. Alors, il reçoit un petit mot. Et l'âme, signée Brigitte, écrit, dit-il, en écriture magnifique, d'une petite, sans doute de 12 ans, et l'âme, vous avez parlé, elle ne dit pas plus ça, elle ne dit que ça, mais on voit très bien pourquoi elle dit ça, il s'est tu sur l'âme, et cette petite qui doit être chrétienne a entendu parler de son âme, et ce grand savant ne parle pas de l'âme, il croit parler de l'homme. Et l'âme. Alors il a écrit un livre. Et l'âme, dit Brigitte. Je trouve ça très joli. Il a répondu. Et dans ce livre, il termine par une citation d'un philosophe croyant qui parle de l'âme au plan spirituel. C'est assez beau. Donc, ce savant positiviste comme formation, il est encore très fort. Cependant, se dit, il doit y avoir quelque chose. Mais quoi? Ma science ne me permet pas de le dire. Et Aristote dit, l'âme, c'est la quiddité du corps. Le corps n'est intelligible que par l'âme. Je me souviens de la tête, c'était à Fribourg, de ce grand d'Espagne qui était docteur en biologie, en sciences biologiques de Genève. À Fribourg, et je faisais un séminaire sur le De Anima d'Aristote. Alors je l'ai invité, et c'était juste le moment où Aristote dit que l'âme est quiddité du corps. Alors j'explique que la seule intelligibilité qu'on a vraiment du corps humain provient de l'âme. Alors je le voyais. Et à la fin du coup, il s'est précipité sur moi. Il dit alors, la science biologique, qu'est-ce qu'elle étudie? Puisqu'on ne dit jamais un mot sur l'âme. La cause matérielle. Et donc, elle ne nous dit pas l'intelligibilité propre de l'homme vivant. C'est terrible. Si je suis aristotélicien. Alors, est-ce que c'est vrai ce que dit Aristote? On doit se poser la question. La biologie, les sciences biologiques ne disent que quelque chose de matériel par rapport au cadavre. Donc, c'est équivoque. Ce n'est pas une connaissance propre. C'est matériel. Alors, est-ce qu'Aristote a raison? études biologiques ne cessent de se poser quand on fait la philosophie du vivant. Et je comprends très bien. Est-ce que toute cette science biologique, c'est de la matière, c'est matériel? Et on s'en sert pour guérir. Et la guérison, c'est un vivant. Le passage de l'expérimentation sur le cadavre ou sur les petits animaux, c'est ce qui se fait. Hein. Tous les produits pharmaceutiques, on fait l'expérimentation sur des petits cochons d'Inde. Ce sont des bons petits animaux, ça. Ils ne crèvent pas, donc l'homme ne crèvera pas. On fait l'application et l'homme crève. psychologie nous aidera à purifier ce qu'on peut dire sur les passions, sur l'imaginaire. Faut pas rejeter, faut distinguer. Et comprendre la distinction entre les deux. Eh bien, je crois que ça reste encore juste. C'est celui qui se meut, à la différence de celui qui est mu. Voyez comment le vivant grandit, comment un tas de pierres grossit. Vous ajoutez une brique, vous ajoutez une pierre, ça augmente de l'extérieur. Le vivant, c'est de l'intérieur.
Complexité, c'est les mots.
se meut, la petite fourmi qui se meut, c'est bien plus important que la complexité. Elle se meut très bien, la petite fourmi, avec des plaques énormes sur son dos. Elle est laborieuse. Alors, le vivant, c'est celui qui se meut. Et l'homme, c'est celui qui se meut de la manière la plus complexe qui soit et la plus variée qui soit. Je peux décrire toute cette complexité, ça c'est facile. Et là, encore une fois, la biologie, la science biologique me sert. Et la science psychologique me sert aussi dans la complexité. Complexité biologique du corps, la plus grande complexité. Complexité psychologique, la plus grande qui soit. Et cependant, c'est toujours moi qui est celui qui réfléchit sur cette complexité, qui l'analyse et qui la décrit. Oui, premier problème, après ces petites remarques, décrire la complexité étonnante de l'homme vivant. Vivant dans son corps, je vis dans mon corps. C'est pour ça que j'ai besoin de temps en temps de prendre une nourriture. Puis c'est l'heure, hein, c'est bientôt l'heure. J'ai besoin de prendre une nourriture en raison de la complexité. Et c'est pour ça que les légumes sont complexes. N'est-ce pas? Pour prendre, me nourrir. Complexité psychologique. Les drames psychologiques que je porte en moi. Les tensions psychologiques que je porte en moi. Puis de temps en temps, une lueur extraordinaire de simplicité. Contemplative, d'amour. C'est si simple d'aimer. Il y a un support psychologique énorme. Alors, une petite pointe, toute petite pointe. J'aime. Quand je dis j'aime, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense. J'imagine. Tout ça, c'est moi. Donc, description, c'est la première chose qu'on doit faire. Description de la complexité, ça c'est facile, on peut tout se faire. Décrivez, philosophiquement parlant, une de vos journées, loyalement, hein, sans rien passer. Je me suis endormi 3 fois dans le cours, mais grâce à Dieu, je me suis réveillé à temps. J'étais très fatigué, j'ai mangé, et ainsi de suite. Bon. Et le problème, c'est que dans cette complexité, il y a une unité. Je me suis endormi hier, et je me suis réveillé ce matin. Et je n'ai pas hésité une seconde de comprendre que c'était moi qui m'étais endormi hier au soir, et moi qui me réveille. Et si vous commencez à dire, mais est-ce que c'est bien moi qui me suis endormi hier au soir et qui me réveille maintenant? On vous dira, faites attention. Restez pas trop longtemps dans cette espèce d'incertitude. Parce que là, vous allez faire une coupure qui va se répéter ce soir. Et vous allez être très angoissé parce que votre moi va s'endormir. Et comment vous allez le rattraper? C'est très très curieux, ça. Mais il faut réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que c'est que se réveiller? Au son de la cloche, au son du